campagne. Bonjour. Avant de préparer cette semaine consacrée aux initiatives prises dans le département de l'Indre, je ne m'attendais pas à rencontrer autant d'agités du local, de faiseurs ou de faiseuses en tout genre. L'Indre n'est pas dépréciée, mais semble mise entre parenthèses sur l'échiquier des pays éminemment rural. Ce département voit régulièrement sa population se réduire malgré ses atouts naturels, historiques, sa qualité de vie, malgré son romantisme et George Sand, malgré sa place centrale sur la carte de France, au centre, oui, mais éloigné de toutes les grandes villes. Alors le Berry, que l'on associe à ce département, tente de sortir de sa réserve. Une péniche bien garnie est allée par exemple la semaine dernière à la rencontre des journalistes et des gourmets parisiens pour leur soumettre la gastronomie locale. Verre de Reuilly, étrange de Valençay à la main, les fines bouches de la capitale auraient découvert des saveurs inédites. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, vous allez me dire, même si la logique serait que les décideurs se déplacent plutôt que de monter les tables sur un quai de Seine. Paysage, nature, savoir-faire et jardinage, trois familles du Berry ont choisi d'intervenir sur place, chez elles, pour partager ses fondamentaux et faire connaître les bonnes pratiques. Ainsi est née l'association L'Ail des Ours, animée par Nicolas Bloin, premier invité. L'Indre attractive, comme le prouvent les 14 ou 15 000 personnes qui se déplacent chaque été au festival Le Son Continue, un rendez-vous des musiques traditionnelles et des luthiers. Membre du collectif organisateur, Jean-François Hensen sera notre second témoin.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Nicolas Bloin, bonjour.
Bonjour.
Nicolas, vous êtes animateur, salarié depuis quelques mois de l'association L'Ail des Ours, qui a vu le jour à Luan en juin 2016. Alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas L'Ail des Ours, c'est une plante qu'on trouve, plante sauvage, qui est, paraît-il, délicieuse.
C'est ça, c'est une plante sauvage qui a goût d'ail et qui remplace allègrement dans tous les plats l'ail traditionnel qu'on cultive, sauf que là, elle pousse naturellement.
Et elle se reconnaît facilement ?
Oui, ça ressemble un peu à la feuille du muguet. Quand on la met côte à côte, il n'y a pas de doute possible. Hein, l'ail des ours, déjà quand on froisse la feuille, ça émane de l'ail partout. Et voilà, c'est une longue feuille longiligne. Mmh. Et on peut manger toutes les parties de la plante.
Ah oui.
Les feuilles, les fleurs, et puis les petits bulbiers.
Mmh. Et donc vous avez fait un pesto à l'ail des ours qui, paraît-il, est délicieux.
Oui, c'est ça, la vie.
Quand on sait utiliser ce genre de plantes, on connaît bien le jardinage, c'est votre cas.
Oui, tout à fait. L'association porte le nom de cette plante-là parce que c'est emblématique des plantes qui facilitent la vie du jardinier. Cultiver de l'ail, c'est vraiment pas facile. Et du coup, la nature, elle, nous donne un plant d'ail vivace qu'on a d'une année sur l'autre, qu'on n'a pas besoin de travailler, pas besoin de cultiver, et qui est très, très abondante. Donc du coup, c'est vraiment faire avec, observer déjà la nature et faire avec ce qu'elle nous donne.
Mmh. Et donc la première activité, effectivement, c'est le jardinage, et en particulier auprès des enfants de l'école de Luan, grâce à une serre pédagogique de 120 mètres carrés qui a été montée grâce à l'appel à projet Territoire à énergie positive.
C'est ça. Il y a une petite partie en prairie dans l'école, dans la cour d'école. Et du coup, il y a une belle serre maraîchère au milieu de la cour, c'est cool.
Mmh. Alors, les enfants ont la main verte ?
Oui, les enfants ont la main verte dans le sens où ils ont énormément d'intuition. Et souvent, ça donne des résultats surprenants, quoi. Mais au-delà du jardinage et de ce qui s'y vit, c'est vraiment réapprendre énormément de choses, notamment des choses un petit peu oubliées, c'est remettre les mains dans la terre, par exemple. Même si on est en campagne, là, les enfants sont quand même hyper connectés.
Oui.
Et l'occupation principale, c'est souvent la console et les écrans et tout ça.
Mmh.
Et là, du coup, les enfants qui, en début de séance, ne voulaient pas du tout toucher la terre parce que la terre, c'est sale. et là, du coup, il y a des déblocages qui se font et ça se voit d'ailleurs sur leur visage et les sourires qui illuminent, quoi. C'est vraiment génial.
Et on pourrait faire un cours de SVT grâce à ça.
Ah mais oui, mais en fait, c'est vraiment pas que du jardinage, ce qui se passe dans cette serre, ça dépasse un peu tout ça, parce que vous seriez venu au mois de septembre, à la rentrée, là, il y avait plein de tomates dans la serre, et on a fait une séance entière où on a dégusté les tomates ensemble. Là aussi, je trouve que ça dépasse le jardinage, et on est vraiment dans l'approche de la nature, et qu'est-ce que la nature nous donne. Et là, les enfants étaient vraiment épatés de voir que ce qu'ils appellent tomates, ça peut avoir vraiment des nuances et des goûts vraiment très différents.
Mmh.
Donc c'était vraiment chouette, cette séance-là, là. Avec là aussi deux enfants qui n'aimaient pas du tout les tomates, qui ne voulaient surtout pas goûter et qui ont fini quand même par dire « Ah oui, non, mais Là, c'est quand même pas pareil. C'est pas les mêmes tomates.
Ah, la bonne heure. C'est meilleur que le Nutella, les enfants. Sachez-le. On fait pas la même chose avec les personnes âgées des maisons de retraite, parce que vous allez aussi vers ce public.
On va vers des maisons de retraite. On va aussi vers des publics particuliers. Là, on a fait une sortie avec des aveugles en forêt. Sur le thème, c'est pas parce qu'on ne voit pas qu'on ne peut pas reconnaître les plantes. Mmh. Et donc, du coup, c'était une sorte de balade en forêt. On évoquait un peu tous les sens et c'est pareil, c'était une vraie réussite. On recommence au mois de mai, là, avec les beaux jours qui arrivent.
Ouais. Et c'est vrai que vous multipliez les idées, les activités. Alors, vous avez, par exemple, un programme famille alimentation positive chez vous.
C'est ça. Alors, ça, c'est porté par la région Centre. Et là, le but de ce défi-là, c'est de consommer dans nos assiettes de la nourriture bio ou locale, ou et locale. Et le défi, c'est de ne pas puiser plus dans son porte-monnaie.
Mmh. Puis alors, je vois dans toutes les inventions, il y a 10 foyers de l'association qui ont créé une équipe qui s'appelle les fées, comme les fées magiques.
Les fées, oui, les bonnes fées.
Les bonnes fées de serre, donc les fées de serre. Mais les fées de serre, que font-elles ces fées de serre?
Alors, les fées de serre, là on est vraiment porté par ce mouvement du défi alimentation positive. On s'est réunis tout au long de l'année sous diverses ateliers. On a eu un atelier de conception de pain là, chez un paysan boulanger qui habite pas très loin de chez nous. On a eu un atelier de cuisine, comment cuisiner les plantes sauvages là au mois de février. Et puis prochainement, on va avoir des ateliers de jardinage pour les plantations de printemps.
Bravo. Et puis alors, la liste est longue. Le mieux, c'est d'aller sur le blog aidesours-asso.blogspot.fr. Et là, vous saurez tout. Mais cette adresse est un peu longue. Vous allez la retrouver à nos pages d'émission. Et n'hésitez pas à vous renseigner auprès de Nicolas pour savoir comment on reconnaît et on peut trouver en sous-bois l'ail des ours et comment on peut le cuisiner et l'associer à des mets. C'est délicieux. Merci, Nicolas.
Merci, Philippe.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Inspiré du défi famille à énergie positive, la coordination Rhône-Alpes de l'agriculture biologique avait lancé en 2012 un défi famille à alimentation positive. Il s'agissait d'aider des familles de façon conviviale à augmenter la part de produits bio et locaux dans leur alimentation quotidienne. Le pari était de prouver qu'une alimentation équilibrée est possible sans augmenter le budget alimentaire. Ce défi a fait son chemin, il est repris dans d'autres régions, dont celle de Centre-Val-de-Loire où nous sommes, et dans le département de l'Indre, il est animé par le CPIE, le Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement, Brenberry. La mise en place nécessite la création d'équipes d'animation, et comme par hasard l'association L'Ail des Ours qu'on vient d'entendre en fait partie. Des ateliers préparent les familles candidates, ateliers jardin, cuisine, diététique, gaspillage alimentaire, des relevés des habitudes de consommation des familles sont effectués à 3 reprises durant la période de l'opération avant un événement de clôture régionale en septembre prochain. Cette opération en région est à l'initiative du Centre Val-de-Loire du GREN, le réseau pour l'éducation et l'environnement. Vous allez trouver un lien à nos pages. De Biocentre, le site de l'agriculture biologique en centre. Et puis, évidemment, de la CPIE, dont le siège est à Azay-le-Ferron depuis 1979 dans l'Indre, et qui met en valeur un site d'exception dans le pays des mille étangs. Et il organise des formations sous forme de stage. CPIEBREN.fr pour l'adresse. Dans son domaine des musiques traditionnelles, il est connu sous le pseudonyme de Maxou. Voici donc Jean-François Etsen. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Donc je peux dire bonjour Maxou.
Oui, vous pouvez.
Vous êtes un des membres du grand réseau des musiciens du milieu de la musique traditionnelle. Vous êtes un des responsables de la programmation du Festival de musique traditionnelle Leçon Continue. On va y venir. Le traditionnel en 2018 couvre quoi ?
Un ensemble de musique très souvent acoustique et qui se développe en marge des grands réseaux de diffusion musicaux. Ce ne sont pas des musiques qu'on peut télécharger sur le net, il faut aller dans des concerts, dans des cafés musique, dans des balles, dans des salles de programmation, encore une fois, dans des réseaux assez parallèles, mais c'est une musique qui est vivante, qui se développe.
Et c'est une musique qui est d'abord dansante ?
Alors, c'est là où est l'ambiguïté. C'est la partie visible de l'iceberg. Les répertoires de musique traditionnelle à danser sont assurément les plus joués à l'heure actuelle, mais à côté d'eux, il y a tout un répertoire concertant, un répertoire de circonstances qui est toujours utilisable et toujours utilisé.
Mmh. Pardon pour l'allusion, est-ce que le milieu du trad, le trad, comme on dit, peut devenir trash?
Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des à l'intérieur des musiques traditionnelles et de leur sonorité et des timbres instrumentaux, il y a tout un mouvement de musique, si j'ose dire, un petit peu hypnotique, voire électrique par moment, et on peut dire trash. Oui, oui, il y a des c'est une forme très malléable. Oui. On peut être très conservateur et vouloir jouer à l'identique, ou on peut prendre un répertoire et en faire un prétexte.
Oui, je vous posais la question, Jean-François ou Maxou, parce que je vois dans la programmation, il y a des choses, il y a des objets musicaux non identifiés comme Moisbat. Alors Moisbat, c'est du groove agricole du Périgord, et le groupe se présente comme ça: Thomas à la pelleteuse, Christophe au tractopelle, Paul à la niveleuse et Alain bulldozer.
Voilà, c'est une approche décontractée et absolument pas prétentieuse d'une musique rurale pour faire danser. J'ignore de quels instruments jouent tous ces musiciens, mais ils proposent un répertoire qui va faire danser au cœur de la nuit sur la scène du Château d'Ars.
Oui, alors c'est effectivement dans le parc du Château d'Ars, c'est du 12 juillet au 15 juillet, 5e édition, il y a 15 000 personnes qui viennent. Alors si on dit ça, on dit « Ah, ça y est, vous devenez les vieilles charrues de la musique traditionnelle ».
J'aurais dû vous arrêter au début de votre intervention. C'est pas le mot festival qu'on met en avant. Le cœur de notre événement, c'est un salon de lutherie. Nous rassemblons autour de 130 luthiers français et étrangers qui travaillent sur les instruments traditionnels et leur adaptation contemporaine. Mmh. Et tout autour de ce salon se déclinent toutes les utilisations qui peuvent être faites de ces instruments. On peut assister à des concerts improvisés, des boeufs, des balles, on apprend à jouer, on apprend à danser, ou des musiciens qui font des démonstrations sur les instruments présentés par les luthiers. Et là, on a au contraire un public très, très familial et beaucoup de touristes ou de gens du Berry qui viennent découvrir ça. La partie la plus spécialisée, je dirais, c'est d'une certaine manière les concerts du soir, où là, des gens qui sont plus mélomanes, plus intéressés par ces répertoires, payent un petit tarif supplémentaire pour assister aux concerts, ou bien des gens qui viennent de très loin pour danser toute la nuit et qu'on fait sortir du parc à 6h du matin.
Oui, voilà. Oui, c'est ça, à 6h du matin, parce que le son continue et continue pour différentes raisons, mais déjà pour la durée des journées festivalières, de 10h, sauf le premier jour, ça ouvre à 13h le 12 juillet, mais les autres jours, c'est de 10h à 6h non-stop.
Voilà, il faut bien nettoyer un peu et on rouvre à 10h après, voilà.
En tout cas, c'est une très belle idée. Alors, il y a quelques années, on disait c'est le renouveau de la musique traditionnelle. Maintenant, c'est plus le renouveau. Ce renouveau se prolonge ou il perdure. Comment vous expliquez cette longévité du renouveau?
C'est la continuité, parce que ça rentre en écho avec des tas de choses qui traversent l'actualité, des circuits courts culturels. C'est pas la peine d'aller chercher des répertoires lointains, les répertoires ils sont ici. On a un ami joueur de vielle qui dit que l'exotisme c'est l'illusion dans l'espace et le folklore c'est l'illusion dans le temps. Ouais. On va plutôt chercher dans le temps des sources d'inspiration artistique que l'on décline avec des procédés d'aujourd'hui, des goûts d'aujourd'hui.
Ouais. C'est très joli et ça donne envie. C'est du 12 au 15 juillet dans le parc du Château d'Ars.
À mi-chemin de Nohant et de la Châtre.
Exact. Le site c'est lesoncontinu.fr et puis il y a aussi la page Facebook, les liens qui vont s'afficher à nos pages d'émission. Donc je renouvelle, merci Maxou. Merci.
Au revoir.
La semaine prochaine, nous serons dans le département de l'Ariège, avant d'abord de Moine-Mail, la Haute-Garonne, le Loiret, l'Eure-et-Loire, la Seine-Saint-Denis. Je réitère les appels en provenance de ces départements pour vos messages. Et puis ensuite, le Haut-Rhin, d'ailleurs, je l'ajoute à la liste.